Now, ladies and gentlemen, this is Rappers.
Et
Roger Fringant, on a à peine entendu le jungle, c'est un petit peu n'importe quoi,
manqué,
les efforts pas eu le temps.
J'allais dire puis, Roger d'en face, ça on n'a pas l'habitude d'être en on l'essaye, on inaugure un nouveau studio,
tout à fait,
en chargeur de main.
On était côte à côte auparavant, j'étais à votre gauche, vous étiez à ma droite.
Et là on est face-face.
Face-face.
Et sans oublier, comment il s'appelle déjà?
Ben moi c'est Tom.
Ah Tom,
Tom toujours. Et Grovitch.
Voilà.
Et vous savez que Grovitch, il a pensé à mettre tous mes petits dossiers, les scandales immobiliers de notre premier invité, etc.
On s'est longtemps demandé à quoi il servait. Et il sert à plein de choses.
Sauf qu'il a pas vu le rack de limonade en dessous qui n'était pas au frigo. Du coup, on va devoir se rationner toute la soirée.
C'est pas grave, il pense à notre retour peut-être.
Peut-être, c'est pas vous qui conduisez. Bref, une émission bourrée sur laquelle nous reviendrons tout de suite après un petit disque. Un petit disque,
préciser qu'on écoute des grignoux le mercredi direct, le dimanche dans l'après-midi et podcastable soit par le biais du blog des grignoux, soit par le biais de Canal B.
Parce que Canal B ils font mieux que nous, mais c'est pas sûr que ça marche tout le temps. Donc mais nous, moi c'est sûr, c'est moins bien, c'est moins bon, mais ça marche
petit
toujours.
On m'a dit petit son, on a remédié au problème.
Mais au moins ça marche.
Oui, mais est-ce qu'on a remédié au problème?
Oui, parce qu'on a mis des sous en plus qu'on vous paiera l'année prochaine.
Voilà, ça se passe très bien.
On a remédié au problème. En bref.
Il est débordé, ce homme-là. Allez, un petit disque, c'est après, une émission bourrée ce soir, que même qu'il n'y aura pas la semaine des Grignoux, c'est pour vous dire.
C'est pour vous dire.
Vous êtes frustré, Roger.
Dieu sait s'il se passe des choses.
We'll be right back.
Voilà, ouais, un petit les... 52, hein, j'avais même les cheveux qui repoussaient. Ah, c'est bien, bien, c'est la programmation à Tom, ça?
Bah oui, bah oui, c'est moi qui l'ai fait.
Il a fumé de la drogue ou
quoi? Non. De la tomate, il paraît qu'il il est en plein dedans.
Ouais, ouais. Bon, c'est bien, faut bien commencer par quelque chose.
Vous savez que ça fait partie de la même famille que le cannabis, la tomate, là. Faut arrêter la tomate, ça rend accro.
Une émission bourrée, puisque ce soir, nous recevons non moins que deux sujets. On a vraiment deux sujets ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais à mon avis, c'est les nouveaux locaux. On est en centre-ville et tout. Ça donne. On est obligé de repousser du monde. Puisque nous recevons ce soir Vanessa Gendrin. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jacques Pinchard, bonsoir.
Bonsoir.
Qui sont tous les deux candidats, pour le canton de Rennes 3. Ça, c'est le sud-est Rennes-Champy pour le parti Nouvelle Donne. C'est bien ça?
Oui, oui.
Voilà.
Voilà. Et ouais, un petit parti, parce que bah, c'est vrai, soit que dit la législation, soit on invite le PS, pays est obligé d'inviter voilà. Tout le monde, ou soit on prend un nouveau parti qui a...
On s'est dit que le côté, ouais, c'est le côté neuf, un petit peu, et puis aussi, tiens, mais tant qu'à parler de côté neuf, rappeler, c'est aussi l'occasion, parce que loin de nous de faire forcément campagne pour Nouvelle Donne, quoi qu'il en soit, sera quand même l'occasion de rappeler de voter, parce que même si, effectivement, on sait pas trop pourquoi, vous allez pouvoir nous le rappeler. D'ailleurs, on peut voter.
C'est quoi, c'était
les cantonales. Maintenant, c'est départemental. Ça devait comment entraîner des réductions de dépenses. En fait, si on a une usine à gaz qui s'est créée, du coup, ça va encore coûter bien plus cher.
Et en deuxième partie,
nous recevrons d'abord Laetitia. Nous recevrons également Dimitri et Mara. Je vais essayer de bien le dire. Ah, ouais, pas mal. Elle a pas compris. Bon, pour parler de la Grèce et plus précisément de l'association Calimera, l'association grecque de Bretagne, pour nous parler de tout un tas de manifestations qui vont se dérouler pour le week-end du 28, c'est bien ça.
28 et
29, 30 mars.
Voilà. Et on part un petit peu de la Grèce et peut-être qu'on fera tomber quelques préjugés que vous avez sûrement. Vous aimez pas trop les Grecs. Je sais pas pourquoi là.
Je sais pas où vous voulez en venir. Allez, c'est parti. Un petit dix à programmation à Roger. Une petite découverte. Tiens, une dédicace pour mon ami l'Irlandais. Il va comprendre.
parle souvent de politique, mais ce soir, avec les élections, on aura du mal à les faire taire. C'est la rubrique « Allez voter ».
Alors, ouais, j'ai oublié
c'est péremptoire. J'espère que tout le monde est en règle au niveau de l'équipe, au niveau de votre petite carte électorale, Tom Grovitch. Ouais,
n'oubliez pas que mercredi prochain, on va vous demander, hein, est-ce que vous avez bien le coup
prochain,
de tampon.
Il y aura,
ça sera tamponné.
Alors, on vote pourquoi? Alors, les cantonales, départementales.
Alors, on rappelle pour ceux quand même qui auraient pris l'antenne en cours de route que nous aussi pourrons parler ce soir. On a dit, tiens, autant parler d'un produit neuf sur le marché. Ça vient d'arriver depuis 2013, hein, le 28 novembre 2013, plus exactement, c'est ça. Avec, un monsieur, vous allez adorer prononcer son nom, Monsieur Pierre Laroutourou. Voilà, on rigole. Voilà. On rigole, mais on rigole moins quand on sait quand même que c'est un parti qui revendique près de plus de 11 000 adhérents, c'est bien ça?
Oui, c'est 11 000 adhérents, donc fin décembre 2014.
D'accord. Donc, comment on s'était dit chez les Grignoux, quitte à, eh ben, tant pire, hein, on va affronter le courroux, coucou, bah, de notre directeur d'antenne.
On aura peut-être une semaine de suspension, ça
qui va couiner parce que comment on invite qu'un seul parti. On s'était dit, c'est les cantonales, on va pas se mettre en frais. D'autant que j'ai l'impression que pas grand monde ne sait à quoi ça va véritablement correspondre. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, alors, l'enjeu de ces élections.
Ouais, c'est quoi, en fait, les départementales?
Alors, les élections départementales, c'est d'élire les futurs élus du conseil départemental qui remplace le conseil général. Aujourd'hui, le département est découpé en 27 cantons. Et pour ces 27 cantons, on élit à chaque fois deux personnes, un homme et une femme. C'est des binômes paritaires.
C'est obligé, ça?
C'est obligé et c'est la première fois.
Ça va pas de rigolo tous les jours.
Est-ce que ça change en termes de nombre d'élus par rapport, là vous m'avez dit, 27 cantons, je note, 2 élus. Alors passez-moi le boulier, on a des forts en maths, ça fait à peu près 54 élus, c'est ça?
C'est ça, et ça ne change rien en nombre d'élus, puisque le découpage a divisé par deux le nombre de cantons en Ille-et-Vilaine, mais comme vous avez 2 élus par canton, résultat des courses.
Alors qu'avant il n'y en avait qu'un.
Il y avait qu'un élu, oui, par canton, et c'était renouvelable tous les 3 ans.
Et ça va se passer en comment? Une élection 2 tours, 1 tour, proportionnel, c'est comment?
Alors, vous savez que la France adore les élections à 2 tours, donc là encore, élection à 2 tours. Un premier tour où, si vous faites 12,5% des suffrages, vous êtes qualifié pour le second. Enfin, non, des exprimés, 12,5% des inscrits, et pas des exprimés. Et alors là, on peut être sélectionné pour le second tour, et là, deux, voire trois, autant de candidats qui ont fait 12% des inscrits peuvent être sélectionnés pour le second tour.
Et une petite question, ça sert à quoi en fait pas de voter, mais justement le
conseil départemental.
Ouais. Est-ce que ça a un réel pouvoir? Est-ce que c'est une doublette avec le... Souvent les gens confondent régional, départemental.
Et on va voter pour les régionales bientôt.
Oui, à la fin de l'année, effectivement. Alors, le conseil départemental, c'est une institution qui est importante puisqu'elle gère quand même plus d'un milliard d'euros. Ça correspond au budget du département d'Ille-et-Vilaine, qui vient de passer le milliard d'euros de budget. Essentiellement, il s'occupe d'action sociale, c'est-à-dire que il verse ce qu'on appelle les APA, c'est-à-dire c'est les aides pour les personnes âgées. Il est aussi responsable des collèges. C'est lui qui s'occupe du bâtiment, de la rénovation des collèges.
Uniquement collège, pas les lycées.
Et donc, bienvenue dans le découpage français. C'est vrai que c'est pas simple.
Alors, c'est quand même important parce que les actions sociales, qui dit action sociale, ça veut dire budget, ça veut dire enveloppe. Ça veut dire que comment ce sont les élus du conseil départemental qui vont effectivement procéder à la répartition des aides aux associations en fonction de leurs affinités, voire même politiques. Parce que voilà, on va quand même pas vous cacher qu'on nous dit que c'est une élection somme toute secondaire. En tout cas, c'est surtout le PS qui le dit. On peut un peu comprendre pourquoi. Mais en attendant, au final, va y avoir du pognon qui pourra être distribué. C'est quand même pas rien.
Alors, ils la plupart de l'argent qui est distribué par le conseil général est départemental, puisqu'il va falloir s'habituer au nouveau nom, départemental, ouais. C'est quand même de l'argent qui est orienté à partir de lois nationales, comme le disait Vanessa, pour financer tout ce qui est l'action sociale. Le gros budget, il est là. Hein. Donc là, le conseil général
ça
n'a
pourra
pas beaucoup
détourné,
de...
Ça pourrait pas être détourné vers des associations maison, d'aide de bonnes œuvres ultra-catholiques, par exemple.
Alors,
enfin, je dis ça pour
il a des obligations qui sont dans la loi. Hein. Celle-là, il peut pas passer à côté, même si parfois l'État peut freiner les budgets
budget qu'il devrait donner au conseil général, au conseil départemental, encore une fois, pour faire le travail qu'il a à faire. À côté de ça, le conseil départemental a effectivement une marge de manœuvre, puisque tout ne va pas à des actions obligatoires. Les routes, il en a la charge, mais l'État lui demande pas de faire 50 ou 100 kilomètres de route. Donc, il a le choix de faire 50 ou 100 ou 200. Et là-dessus, d'ailleurs, Nouvelle-Donne demande à ce que le conseil départemental cesse d'augmenter son budget route comme on le faisait dans les années 50 et comme on le fait depuis 50 ans, à savoir le Parti Socialiste, pour relancer l'économie, dit-il, eh bien, a trouvé la bonne idée d'augmenter le budget route. Et la droite, à qui ça ne suffit pas, dit « Oui, mais vous n'avez pas encore augmenté assez. » Comme si c'était la seule façon de relancer l'économie que de donner du travail, que de faire des routes. Donc nous, là-dessus, on dit « Oui, les routes, on a un très beau réseau de routes en Ille-et-Vilaine. »
En Bretagne en général.
En Bretagne en général, on va dire on en est très fiers. Alors, bien entendu, il faut l'entretenir. Mais de là à faire des kilomètres supplémentaires pour la seule raison de relancer l'économie, là encore, c'est vraiment vieille donne. Nous, on pense qu'aujourd'hui, vraiment l'urgence, c'est toute la construction de logements. Ce ne sont pas dans les prérogatives directes du conseil départemental, mais il peut participer à la construction de logements. Il peut aussi participer à la rénovation de logements anciens, puisque il y a quand même un vrai problème avec le budget des ménages. Une grosse partie du budget va, un, dans la location, et deux, dans les frais de chauffage. Et donc, si on réussit à isoler mieux les bâtiments, eh ben, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les personnes. Et puis, si le conseil général départemental, encore une fois, il va falloir s'y habituer, veut vraiment aider, faciliter les déplacements, eh ben, plutôt que de faire des kilomètres routes qui coûtent extrêmement cher, eh ben, c'est peut-être de mettre de l'argent dans les transports en commun.
Et puisqu'on parle, bah, apparemment, on est parti un petit peu sur la partie programme, Nouvelle-Donne,
c'est quoi Nouvelle-Donne?
Ouais, parce que moi, je vais vous dire tout de suite, dès que j'ai vu Nouvelle-Donne, j'ai pensé Roosevelt, le New Deal, en fait, est-ce que c'est dans la même philosophie? C'est-à-dire que le fameux déficit budgétaire, côté kényan de l'économie ou?
Alors, on voit que le niveau d'anglais est bon, hein, puisque New Deal, Nouvelle-Donne, bah oui, c'est tout à fait ça. Nouvelle-Donne, c'est donc un, et puis en plus, c'est un mouvement politique qui s'est transformé à l'issue de Roosevelt 2012, c'était un grand mouvement social, associatif, on va dire autour
citoyen.
De citoyens, oui, d'une façon très générale, qui avait obtenu 100 000 signatures, hein, il me semble, donc c'était quelque chose d'énorme en 2012. Et à l'issue de ça, eh ben beaucoup de gens à l'intérieur de Roosevelt 2012 se sont dit, bah c'est bien de réfléchir ensemble, c'est bien de proposer des choses positives à l'ensemble des partis et des forces en présence. Mais comme on voit que personne se l'approprie, eh ben peut-être qu'il faut reprendre la main et construire un parti à partir de ces grandes idées de Roosevelt 2012.
Alors là, justement, donc il y a bien une référence à Roosevelt en fait.
Oui,
voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Alors le problème, du coup, c'est que même si l'idée peut paraître comment intéressante, ça revient quand même encore à créer un parti de plus. Et si on va sur Internet et tout, on vous situe, on va dire un petit peu à gauche, avec des préoccupations écologiques, etc. Or, il se trouve que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans pas mal de partis ailleurs, qu'on retrouve dans le parti de gauche, qu'on retrouve chez les Verts, même parfois chez certains socialistes.
Alors, en fait, on est un parti avec des valeurs de gauche. Ça, c'est indéniable. Mais on propose des solutions différentes, plus concrètes, plus factuelles que les vieux partis habituels. Et alors, l'argument un parti de plus, bon, pourquoi pas, enfin, je veux dire...
Bah oui, ça fait quand même un parti de plus.
Ceci dit, les gens aujourd'hui, je crois, changent de gouvernement. C'est vrai, on change de gouvernement, on passe de l'UMP au PS, mais on change pas de politique. Et l'ambition de Nouvelle-Donne, c'est de réellement changer de politique en France, avec comme priorité première la lutte contre le chômage, par le partage du temps de travail.
Ouais, je reviens toujours sur Roosevelt et qui était inspiré par Keynes, hein, c'est ça Keynes, ce qu'on appelle le déficit budgétaire, c'est-à-dire que l'État finance une politique de grands travaux, ça permet de faire baisser le chiffre du chômage, comme les gens ont un salaire, ils consomment et l'État récupère, je caricature, son investissement de base par le biais des impôts et des taxes. C'est un peu ça l'idée de.
Alors c'est pas ça ce que l'on a retenu principalement de ce New Deal. Ce qu'on a retenu principalement, c'est que c'est un mouvement, une force politique très forte qui essayait de trouver des solutions concrètes à la situation de l'époque. Et la situation d'aujourd'hui n'est pas celle de l'époque de Roosevelt. Par contre, évidemment, la chose, c'est la crise qui semble être la même, en tout cas le risque de crise véritable semble être le même, même si aujourd'hui on est... Je veux dire, tout le monde se plaint, mais on n'est pas dans une véritable crise, même si, effectivement, il y a la crise proche de chez nous. La Grèce, effectivement, est dans une crise véritable, mais nous, en France, on la voit poindre, mais elle n'est pas présente en tant que telle. Par contre, les mesures à prendre sont aussi importantes que celles qu'a pris avec courage Roosevelt à cette époque-là. Et ces mesures à prendre, c'est prendre conscience que la crise aujourd'hui, elle est essentiellement liée à la question du chômage et à la question d'un point qui est partagé et par la droite et par la gauche, en tout cas les vieilles gauches et on va dire les vieilles droites, c'est de dire qu'il faut le retour de la croissance. Et cette sacro-sainte croissance, toutes les politiques à droite comme à gauche sont en train de dire à la population, calmez-vous, ne vous énervez pas, la croissance va revenir, on la sent poindre, on passe de 0,5 à 0,7.
Des mouvements décroissants, il en existe déjà aussi.
Alors nous ne sommes pas un mouvement décroissant, nous disons pas qu'il faut décroître, nous disons tout simplement que la croissance, il n'y en a plus, que l'on le veuille ou pas, depuis 15 ans, dans tous les pays occidentaux, que ce soit le Japon, les États-Unis ou l'Europe, la croissance n'est plus, à savoir qu'il y a 20-30 ans, il y avait 5 ou 7% de croissance. Aujourd'hui, c'est 0,5, 0,7,
0,8. Mais philosophiquement, est-ce que c'est pas tout simplement parce que certains besoins de base ont été assouvis? Pas forcément de manière très équitable, mais en tout cas, l'accès à l'eau potable, j'entends, comme une nourriture plus ou moins bonne qualité, mais en tout cas, on mange, quoi. Et du coup, maintenant, effectivement, c'est pas sot de se poser la question de se dire, c'est quoi maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Mais vous avez bien compris, effectivement, nous avons tous un réfrigérateur, une télé, une voiture, et la question, c'est le renouvellement, mais ce n'est plus la production de première main. Et donc, effectivement, il y a moins besoin de production, même si, effectivement, on change de téléphone portable. Enfin voilà, on est dans une société de consommation, mais on n'a pas besoin de...
On rentre quand même du coup dans une logique quand même de décroissance. On est obligé, qu'on l'appelle d'une manière comme on veut. De toute façon, ça sert à rien, effectivement, de continuer à produire des merdes qu'on va faire fabriquer en Chine pour 3 mètres.
Regardez, Tom qui porte des vêtements d'occasion, c'est pour vous dire, hein, comme quoi il a bien compris ce que c'était que la décroissance, là.
D'autant plus que
la décroissance, c'est pas un gros mot.
Non, mais le côté décroissance, c'est pas celui-là qu'on utilise.
C'est pas porteur électoralement, c'est
mais
clair.
Ce qu'il y a aussi, c'est que la croissance telle qu'on l'a connue, elle est plus soutenable pour l'environnement. Je crois que c'est aussi un des grands messages de Nouvelle Donne, c'est de dire la croissance va continuer à zéro et quelques, mais que on sait très bien aussi que la planète ne va pas supporter une croissance telle qu'on les a connues dans les années 60, 70, jusque récemment. Le réchauffement climatique est un vrai enjeu et une vraie priorité.
Donc il y a des préoccupations écologistes dans vos propos aussi, quoi. C'est un mélange entre...
Alors oui, véritablement, et ici en Ille-et-Vilaine par exemple, on a des propositions très concrètes, alors que j'ai envie de dire tous les vieux partis, et là encore une fois on peut les mettre dans la même classe, à savoir que dernièrement on a eu un sénateur écologiste, monsieur Labbé, qui a proposé une loi pour arrêter d'empoisonner, il faut appeler un chat un chat, les abeilles avec des produits phytosanitaires. Eh bien, tous nos sénateurs de Bretagne, et je dis bien tous, de droite et de gauche, qui ont tous l'âme verte, hein, on le sait bien, en tout cas ils s'expriment comme tels, eh bien tous ont voté contre cette proposition de loi.
Non, mais notre ministre de l'Agriculture a résolu le problème, on en a parlé il y a quelques semaines à la radio, il a dit désormais les produits phytosanitaires, on les mettra la nuit. Les abeilles sont couchées la nuit, elles n'auront pas de problème, ça c'est officiel, voilà, ça c'est la
réponse. Donc voyez, on trouve des solutions à tout.
Vous voyez, il n'y a pas à s'inquiéter pour les produits phytosanitaires.
Donc nous, en Ille-et-Vilaine, on pense qu'il faut aller plus loin que de mettre des poisons la nuit. Hein. On se dit qu'il faut peut-être, puisqu'on a la possibilité de... On gère donc les collèges, eh bien on dit que dans les collèges, on peut orienter l'alimentation vers 20% d'alimentation biologique locale d'ici 3 ans et 50% d'ici 5 ans. Avec des chiffres de cette façon, les filières d'agriculture peuvent prévoir investir en sachant qu'il y aura effectivement un débouché pour leur activité.
On s'écoute un petit disque, puis après on poursuit assez rapidement. On est désolé, mais on est bourré.
Justement,
bourrés.
Parce que vous écouterez peut-être l'émission en rentrant, mais tout à l'heure on va recevoir des invités qui sont grecs, et j'en reviendrai. J'ai une question que je voudrais vous poser. Syriza, nos invités tout à l'heure nous expliquaient que c'était quand même une espèce d'alliance de gens qui avaient fini par se regrouper. Or, l'apparition d'un nouveau parti, avec ce qui va se passer, je sais pas. Je suis dubitatif.
On s'écoute un petit disque.
Sinceridade venenosa que atropela.
Voilà, toujours en compagnie des candidats de, nous dit là, de la nouvelle donne, là, le...
Nouvelle donne. Alors maintenant qu'il connaît un mot en anglais, il va nous le dire toute la soirée, New Deal Roosevelt. Parce que, alors du coup, c'est marrant parce que, Jean-Loup nous parlait de grands travaux et tout ça, et puis, bah, vous, c'est pas vraiment les grands travaux que vous prenez, justement, vous gueuliez contre l'excès de route, par exemple.
Ah oui, mais avant de partir, tu nous parlais.
Oui,
du
tu avais une question.
C'est vrai. Excusez-moi.
J'ai une question.
Excusez-moi une autre question.
Alors, Roger,
on a continué la conversation un peu avec Dimitri, notre invité tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on va avoir Dimitri et on va lui poser quelques questions sur la Grèce. Et Syriza, on a un peu préparé l'émission avec eux. S'il nous a bien, si on a bien, plus ou moins bien compris ce qu'était Syriza, c'est quand même une alliance de plein de mouvements. On trouve des écologistes, on trouve des plus ou moins radicaux, etc. Une coalition. Et, comment est-ce qu'aujourd'hui, alors moi je vous pose plus une question philosophique, hein, autour de Nouvelle Donne. Encore une fois, c'est pas sur la base des idées de Nouvelle Donne que comment ça me pose un problème. C'est plus au niveau, pourquoi par exemple ne pas rejoindre le Front de Gauche? Par exemple, pourquoi Nouvelle Donne en tant que, je parle du Front de Gauche, hein, pas du parti de gauche dirigé par Mélenchon?
Alors, on considère qu'avant de se regrouper avec d'autres, on a d'abord besoin d'exister et de faire exister nos idées pour que les vieux partis
vous prennent en considération
rejoignent ces d'accord. idées-là.
Mmh. Alors, c'est une stratégie. Hein.
C'est une stratégie. En Ille-et-Vilaine, on a décidé de partir seul parce que aux européennes, on a fait un bon score sur le bassin rennais. On a fait 5% environ et on s'est dit que on voulait dire aux électeurs qui avaient voté pour nous qu'on était toujours là. Et qu'on était fiers de leur confiance. Et donc, on pense aussi, si vous voulez, très clairement, on a une ambition assez importante, hein, c'est de remplacer le PS.
Ah ouais, quand même.
Eh oui.
Ah ouais, et dans 20 ans, on pourrait dire, on a
vous savez quand même que c'est le PS qui nous loge. J'entends déjà notre directeur d'antenne qui galope, qui prend son vélo pour nous engueuler.
Si la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, ce sera à cause
de vous. Ça de vous s'il n'y a pas d'émission des Grignoux.
En tout cas, ce sera un bon signe. Ça montre qu'on existe.
Très clairement, il se passe beaucoup de choses à Nouvelle Donne, en fait. Et sur le renouvellement des idées, je peux vous assurer qu'on travaille. On travaille beaucoup. Tous les adhérents peuvent participer au projet. Donc ça régénère un petit peu, si vous voulez, les idées et la vie politique. Et on pense que ça peut être un vrai tremplin pour des milliers de citoyens de nous rejoindre parce que justement les idées sont nouvelles. C'est pour ça qu'on s'appelle Nouvelle Donne, hein, et qu'elles sont, elles ne sont pas, elles sont basées sur des constats que tout le monde. Avec qui tout le monde est d'accord, hein, le fait que la croissance ne reviendra pas, qu'il faut impérativement lutter contre le chômage. Nous ne sommes pas résignés, contrairement au gouvernement actuel, pour lutter contre le chômage. Et puis...
c'est pareil, mais quand
il y a des paternités, il y a des paternités dans le au sein de Nouvelle Donne qui sont quand même assez symboliques.
Oui,
il y a celle
ça.
De Stéphane Hessel, par exemple.
J'allais vous parler des personnalités justement. Stéphane Hessel a fait partie des fondateurs de Nouvelle Donne. Vous connaissez aussi certainement Bruno Gassio.
L'ancien
auteur des Guignols qui s'engage fortement avec Nouvelle Donne. Vous avez des personnalités telles que Michel Fugain récemment qui a rejoint Nouvelle Donne, mais vous avez aussi notre députée Isabelle Attard qui était précédemment Europe Écologie Les Verts qui a rejoint Nouvelle Donne. Vous avez des élus du MoDem qui rejoignent Nouvelle Donne, c'est le cas dans la Sarthe. Vous avez des anciens élus de l'UMP, l'ancien maire de Cahors qui rejoint Nouvelle Donne, parce que en fait nous proposons des idées concrètes, chiffrées, avec des vraies priorités.
En fait, il faut comprendre que Nouvelle Donne ne se construit pas sur les idéologies d'après-guerre. Hein. Or, tous les vieux partis français ne sont que en fait, ils ont vieilli avec leur temps et ils sont un peu coincés dans le carcan de modèles qui sont dépassés par l'environnement. Il faut comprendre que après-guerre, la question de l'environnement n'était pas une question. On pensait que le pétrole, il suffisait de se ramasser pour en prendre, la terre, il suffisait de l'utiliser. D'ailleurs, aujourd'hui, les agriculteurs n'appellent plus le terrain de la terre, ils appellent ça un support de production. Et donc, tous ces vieux partis sont encore dans cette démarche industrielle d'après-guerre. Or, l'environnement nous oblige à penser les choses autrement. D'autre part, il y a la productivité. Notre intelligence a fait que nous avons des machines, nous avons des robots, nous avons de l'informatique, nous avons maintenant la 3D, et on se rend bien compte que toutes ces machines font qu'il y a besoin de moins en moins de temps de travail pour réaliser tous les besoins dont nous avons. Il ne s'agit pas de vivre avec une bougie, mais il s'agit tout simplement de tenir compte du fait que la machine travaille à notre place et que donc nous n'avons plus besoin de transpirer de la même façon que nos parents. Et donc aujourd'hui, en France, et donc là-dessus, tous les pays occidentaux sont dans la même panade pour gérer cette situation-là, et chacun essaye de cacher sous le tapis les chômeurs comme il le peut. Certains appellent ça des chômeurs, on appelle ça des chômeurs en France, ailleurs ce sont les travailleurs pauvres, mais le problème il est le même, c'est qu'il y a besoin de beaucoup moins de temps de travail pour réaliser les produits dont nous avons besoin. Et là-dessus, en fait, en France, on a trouvé la solution du temps plein à 39 heures de moyenne, et puis à côté, les chômeurs à 0 heure. Et donc, le véritable souci, c'est que en Ille-et-Vilaine, par exemple, nous avons de quoi remplir deux stades rennais, vous m'entendez bien, de chômeurs, tous les gradins. Et ça, personne ne se rend compte qu'en Ille-et-Vilaine, il y a tout simplement de quoi remplir deux stades rennais de gradins.
Vous devriez pas dire ça trop fort, parce que ça pourrait donner une mauvaise idée. Je sais qu'en Argentine, ils avaient fait ça.
Mais qu'est-ce qu'il y a effectivement...
C'est pourtant la réalité.
Et ben, quand on est désolé, c'est moi le méchant. Il va falloir qu'on conclue.
Alors, juste pour conclure. Allez-y, voilà. Donc, nouvelle donne là-dessus à une solution, c'est qu'il faut se remettre rapidement autour de la table, patron, salarié, responsable politique, et rediscuter rapidement du partage du temps de travail. Savoir que ce soit pas 39 heures d'un côté et 0 heure pour les copains, mais peut-être 30 heures, peut-être 28, peut-être revoir le temps de travail tout au long de la vie, les loisirs, la formation. En tout cas, on ne peut pas rester à attendre qu'une croissance reviendrait.
Et une petite question avant de conclure, hein, je reviens sur l'aspect technique, donc c'est les binômes obligatoires. Mais quand il y en a un, est-ce que c'est les deux qui sont élus ou est-ce qu'il y en a un qui doit laisser la place à l'autre ?
Non, non, les deux sont élus. En revanche, c'est une fois qu'on est... Non, non, alors, c'est, les deux sont élus, mais on est, si vous voulez, une fois qu'on est élu, on a une voix chacun.
Vous avez deux voix, en fait.
Enfin, voilà, mais...
Et alors, c'est un ticket, mais pas dans le sens ticket président-vice-président. Les deux ont les mêmes
c'est
pouvoirs.
C'est ça, les deux ont les mêmes pouvoirs. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport au fait qu'on est les deux. On est pas indépendants, si vous voulez, mais on a autant de poids l'un que l'autre.
La même indépendance de vote chacun.
D'accord.
Eh ben, écoutez, on vous remercie, on est désolé, mais il faut, on est, bourré la soirée. On retrouvera tous vos contacts sur le blog.
Pendant les élections, on retrouvera tous vos contacts, pas plus tard que comment. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous, honnêtement? Ça serait de...
Et aussi, dans le dimanche, aller voter aussi.
Vous espérez, je sais pas, un pourcentage, vous avez réfléchi à ça?
C'est d'aller au second tour.
Ouais, carrément.
Bon, on se prépare pour deux secondes, bien sûr.
Ah, nom de Dieu.
On s'y prépare.
On a des winners, avec nous.
En fait, on se prépare pour être conseiller départemental.
Ok. Départementaux.
Départementaux, puisqu'on sera d'ailleurs, on sera quatre en Ille-et-Vilaine.
Eh ben, écoutez, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. On vous souhaite bonne chance, donc, la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, nous, on sera pas là, parce que...
On sera suspendu,
Suspendu.
Ça rigole plus, hein.
Et ça rigole plus. Et puis, peut-être à très bientôt.
D'accord,
à
merci.
Bientôt, bon, merci.
Au revoir.
Allez, on s'écoute un petit disque, et après, on envoie sur
sa programmation des sujets suivants.
To surrender. ils ont exploré des jungles inextricables. Connu la soif dans les déserts brûlants. Découvert des sommets drôlement hauts. Côtoyé les sauvages les plus primitifs. Et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes. En tant qu'anthropologue, ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
Eh oui, une émission bourrée, on a à peine le temps de dire au revoir et bonne chance à nos invités tout à l'heure. Ça va, ils rigolent encore. Voilà, comment dirais-je, on vous appelle dimanche. Et que nous recevons maintenant les représentants de l'association Calimera. Vous faites tous partie de l'association Calimera, j'espère, je me plante pas.
Non.
Yes. Puisque je suis en compagnie de Laetitia, bonsoir.
Bonsoir, Calispera, c'est Oles, que c'est Olus.
Vous parlez bien italien, là.
Ah
là.
Oui, bravo, Jean-Loup.
Ça, je savais pas.
Ah, vous avez reconnu le petit accent,
ah, le côté chanton de la
Méditerranée. Oui, le côté spaghetti et tout, c'est ça, oui.
Nous recevons également Dimitri, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Et nous recevons également Mara. Non, j'ai trop fait.
Bonsoir, calispera, maman, à toute la famille en Grèce et à mes amis également. Calispera, filakia.
Yes. Et alors, on est content de vous recevoir ce soir parce que c'est quand même pas mal de temps qu'avec Jean-Loup, on se disait, ouais, c'est quand même bien qu'on parle de la Grèce. Regardez, un parti de gauche radicale. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez tout à l'heure ce que c'est qu'un parti de gauche radicale.
En Grèce, là.
Et il se trouve que, je vous connais quand même, on va pas le cacher, je le connais quand même depuis quelques temps.
Ne cachons rien.
Et je
Roger,
sais que.
De notre relation.
Vous êtes, comment dirais-je, passionné par la Grèce.
Oui.
On peut même dire que vous parlez quand même un petit peu le grec. Quand même, vous y êtes mis, alors que c'est pas une langue qui paraît très facile comme ça.
C'est pas une langue facile, mais c'est une langue qui est passionnante parce que elle vous ramène aussi beaucoup à la langue française. On y trouve toutes les racines de la langue française et c'est ça qui est passionnant aussi. C'est d'autant plus passionnant quand on va en Grèce de pouvoir parler avec les gens. Ça donne un rapport complètement différent et vous sentez d'un coup quand vous faites l'effort de parler un peu que la Grèce vous ouvre les bras quoi.
Et donc du coup, vous appartenez à l'association Calimera. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de cette association-là ?
Alors, c'est une nouvelle association qui s'est créée cette année, mais avec un collectif d'anciens membres. Et pour ça, je vais passer la parole à Dimitri qui va expliquer un petit peu la naissance de Calimera, d'où vient cette nouvelle association grecque de Bretagne.
Ça veut dire quoi, en fait, Calimera en grec ?
Calimera, ça veut dire bonjour.
Il faut rouler les R, apparemment, en grec.
Pas trop.
C'est pas rrr.
C'est grécéier. On dit ça grécéier, non pas roulé, pour les R. Et donc, l'association, effectivement, est née en novembre dernier. La quasi-totalité de ses membres, donc, sont partis d'une autre association qui préexistait et qui continue toujours à exister. Et la majorité des membres de l'ancienne association a fondé cette nouvelle association qui fait la promotion de la culture, de la langue, de la civilisation grecque avec beaucoup d'actions, de manifestations qu'on aura peut-être l'occasion de développer tout à l'heure.
Peut-être qu'on aura sûrement l'occasion de développer. On peut le dire juste en deux mots. Il y aura du cinéma, il y aura pas mal de choses.
Il y aura la moussaka, parce que ça rime.
Géante.
Il y aura Demis Roussos remixé. Ah
Laetitia.
Oui. Oui, Roger. On parlera bien évidemment du festival du cinéma grec qui aura lieu très très prochainement au ciné TNB les 29 et 30 mars. Et également de la cérémonie du bâton d'Euclide, la transmission du savoir, qui se déroulera le samedi 28 avec une grande soirée de gala. Je vous en parlerai plus en détail à l'heure.
En troisième partie de l'émission.
Puis beaucoup d'autres événements que nous créons autour de l'association. Et puis les activités de l'association, les cours de grec, la danse, la cuisine. et tout ça.
Juste une petite question avant de passer un disque. Alors, le grec, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est dur? C'est quoi? C'est la grammaire, la prononciation, les caractères?
Les caractères, on s'y fait très vite. Ça paraît difficile. On se dit, oh là là, c'est un alphabet différent.
Exotique.
Il faut réapprendre. Et ça, curieusement, eh ben, ça s'apprend très vite. La prononciation, je dirais, sous les conseils de mon professeur, Dimitri, ici présent, j'écoute la radio grecque, par exemple. Ça habitue mon oreille. Et puis on a monté un groupe de musique grecque. Et le fait de chanter, là aussi, à travers la chanson, ben, comme les jeunes qui apprennent l'anglais et qui, à travers les chansons anglaises, ont une bonne prononciation, je trouve que la chanson permet aussi de travailler la prononciation. Après, moi, ce que je trouve super difficile, c'est la grammaire.
Il y a de la grammaire.
Tout est irrégulier. Ça prend des tas de trucs.
Les
génitifs,
les nominatifs, les accusatifs, sur les articles, et sur ceci et sur cela. Voilà, faut se les enquiller.
Ouais, et puis vous avez du courage, parce que à part en Grèce, où c'est qu'on parle grec.
Eh ben là l'association grecque.
Non mais c'est pour ça que vous avez du courage.
En Chypre.
Oui, c'est pas très loin là.
En France, où donc encore?
En Australie beaucoup.
Ah oui, il y a beaucoup de Grecs en Australie.
Il y a toute une diaspora grecque, c'est vrai. Il y a beaucoup de Grecs qui sont un peu partout par le monde.
Allez, on s'écoute un petit disque
pour
et on
se mettre dans l'ambiance justement.
Voilà.
Zorba le grec, je crois. Non, c'est pas.
Non, pas du tout. C'est plus.
Nana Mouskouri.
Vous pouvez l'annoncer.
Eh bien, Mara, je te laisse annoncer. C'est le titre, hein, puisque c'est ton choix.
C'est Théominia, c'est une danse traditionnelle grecque qu'on l'écoute souvent dans les fêtes en Grèce, surtout pendant l'été. Ça se danse en cercle et tout le monde dans la main. Et c'est très festif et très rythmé. Voilà.
Bon, on va s'écouter ça alors.
Allez, c'est parti, on va danser.
Φερέ θεομηνία, η δικιά σου η γνωριμία, η δικιά σου η γνωριμία, μου φερέ θεομηνία. Ένα βάγισσα στο πέλαγος και να με σώσεις έλα, λίγος και να με σώσεις έλα, ένα βάγισσα στο πέλαγος. Τα μάτια σου είναι πέλαγος κι είμαι στη μέση ναυαγός, κι είμαι στη μέση ναυαγός, τα μάτια σου είναι πέλαγος. Η καρδιά μου με κομμάτια, σες με τα γλυκά σου μάτια, σες με τα γλυκά σου μάτια, η καρδιά μου με κομμάτια. Μια ματιά σου μόνο φτάνει, άνω κάτω να με κάνει, άνω κάτω να με κάνει, μια ματιά σου μόνο φτάνει. Σε απέραντο γέαλο με ρίξε με μια ιδέα, με ρίξε με μια ιδέα, σε απέραντο γέαλο. Βάζικες θα με τρελάνεις και με όλους κορτεκάνεις, και με όλους κορτεκάνεις, βάζικες θα με τρελάνεις. Ένα βάγισσα στο πέλαγος και να με σώσεις έλα, αχ και να με σώσεις έλα, ένα βάγισσα στο πέλαγος.
Une danse traditionnelle grecque, hein, c'est ça change du, ah, j'ai du cirque. Kiss de Zorba le grec.
En fait, vous connaissez que ça de la Grèce.
J'ai l'impression que j'ai beaucoup de préjugés sur la Grèce.
Ou pas de préjugés, on va dire des idées reçues. C'est pas des idées reçues. Des préjugés. Alors du coup, ça tombe bien. Alors dans un premier temps, on a dit qu'on s'était dit quand même en préparant l'émission que quand même la Grèce, on a un petit peu entendu parler. Vous avez un petit peu défrayé la chronique européenne, voire mondiale. Vous avez été le mauvais élève de l'Europe.
Vous avez failli couler l'Europe.
Vous avez failli couler l'euro.
C'est grand honneur entre guillemets d'entendre ça.
Mais... Et donc du coup, ça faisait longtemps qu'avec Jean-Loup, on se disait ça serait peut-être bien de pouvoir parler, ben tiens, avec des Grecs. Justement, comment vous avez ressenti ça? Quel est votre vécu par rapport à ça? Sachant que, bah, à notre niveau, on va pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de savoir.
Et surtout, comment on en est arrivé?
Comment vous, à votre avis, comment la Grèce, on est arrivé à cette situation, justement? Alors, je sais pas, on commence. Dimitri, Mara, je sais pas.
Bah, il y a plusieurs raisons, à mon avis. Effectivement, il y a ce qu'on entend beaucoup. En France, mais c'est le moindre facteur.
Les Grecs, s'ils en sont là, ils l'ont bien cherché, quoi.
Ils l'ont bien cherché dans la mesure où une partie, hein, parce que les généralités en général c'est pas bien. Donc une partie de la population effectivement a échappé au fisc. Donc il y a une économie parallèle, ce qui a privé l'État de d'impôts et donc de ressources.
Exemple, l'essence, on parle de l'essence. Est-ce que c'est vrai que 80% de l'essence en grec est frelatée? C'est vrai, ça?
Je ne sais pas si c'est 80%, mais c'est beaucoup, en tout cas. Et on voit aussi que le pouvoir politique, alors, ne peut pas ou ne veut pas. Là, c'est toute la question avec la nouvelle politique. On veut croire que quand il y a la volonté politique, ça peut changer. Et il y a, à mon avis, deux autres grands facteurs, trois même. Je vais énumérer très vite. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, la première, c'est que la Grèce dépense trop d'argent pour son armement à cause de problèmes de la Turquie. Donc, si il y a eu des calculs au début de la crise, si elle dépensait autant que la Belgique, elle serait au même niveau économique que la Belgique. Donc, vous voyez, ça, c'est là un gros problème. On n'en parle jamais. Et pour cause, en France, la France, en même moment qu'elle a donné la première aide, vous me permettrez de dire après ce que c'est cette aide, mais donc elle a exigé la vente des frégates.
Qu'on a vendu à la Grèce.
Voilà, donc ça c'est l'un facteur. Le deuxième, c'est que les banques privées, donc qui ont prêté à la Grèce, avec un taux usurier, donc ce qui a beaucoup fait grimper la dette. Et puis il y a le fait aussi que le pays du Nord, ce qu'on appelle le pays du Nord, essentiellement l'Allemagne, on va pas se cacher, alors qu'il connaissait très bien la situation en Grèce, puisqu'en 2005 elle était encore sous tutelle, n'ont pas hésité à prêter de l'argent, puisque les Grecs achetaient leurs produits à l'Europe.
Mmh. Et est-ce que c'est pas une hypocrisie générale où tout le monde savait, c'est surtout le problème de l'entrée dans l'euro, car tout le monde savait que les comptes en Grèce étaient trafiqués, quand l'Europe demandait il faut 2% d'inflation, pas de problème, 2% d'inflation, et tout le monde savait ça en fait. Quelque part, oui. il a peut-être fallu dire stop, ou on attend un petit peu avant de rentrer dans l'euro. Donc est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie générale où tout le monde découvre, qu'est-ce qui se passe, la Grèce s'écroule économiquement parlant?
Oui, exactement, mais là, les volontés politiques, comme je vous ai dit, donc les pays riches vendaient ce qu'ils voulaient vendre, essentiellement pour l'Allemagne et la France de l'armement, mais aussi de voitures, des produits de consommation.
On prêtait, on savait que, comme dit Jean-Loup, on se doutait quand même que les comptes étaient trafiqués, parce que la droite et la gauche se sont succédés. Il y avait deux grosses familles, une famille de droite, une famille de gauche, qui se sont succédées alternativement durant les années 80, 90, 2000, et au final, des comptes truqués, et quand la crise de 2008 explose, et ben là, pouf, les Boches veulent récupérer leurs sous, tout le monde veut récupérer ses sous, et c'est là qu'on découvre que les Grecs sont à poil. C'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça, et même là, c'est encore hypocrite, selon les ressentis grecs. C'est pas qu'un avis personnel. Je dirais ça, ça montre un peu l'état d'esprit actuel de la majorité de la population. C'est que les gens qui prêtent, et il faut savoir ça, ça ne se dit pas souvent dans les ondes, alors 92% de l'argent prêté, donc de l'aide prétendue à la Grèce, retourne au pays prêteur. Donc c'est pour payer les autres, les anciennes dettes, et ça ne va pas dans la production ni pour l'aide la population. Et d'autre part que ces pays-là, surtout avec la première aide, on fait des bénéfices. Et je me rappelle, j'étais en France à l'époque où la France a prêté. Alors elle a emprunté de l'argent à 1% qu'elle reprêtait à la Grèce à 5%. Et le ministre de l'époque d'économie, il a dit, c'est un placement à risque, donc on se permet de demander plus. Donc vous voyez où se trouve l'hypocrisie un peu.
Donc au final, alors ça s'est traduit par quoi concrètement? Parce que du coup, on a un petit peu du mal à imaginer concrètement dans la vie de tous les jours. Nous, on entend des chiffres qui tombent, c'est là les retraites qui sont amputées de 30%, etc. Les salaires diminués. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit par quoi concrètement du coup?
Par la diminution, comme vous dites, du pouvoir d'achat. Moi, je le vis personnellement puisque je suis fonctionnaire de l'État grec, détaché en France. Donc il y a eu 30 à 40% de baisse de salaire. Pareil pour les retraites. Pour les salaires aussi bien dans le public que dans le privé, ce qui a priori paraît étonnant.
Oui, parce qu'ils sont pas endettés forcément.
Oui, mais c'est l'argument, c'était que comme ça, les produits grecs deviendront plus compétitifs, ce qui n'a pas été réalisé bien sûr, mais ça a permis peut-être à certains investisseurs actuel et futur, de trouver une main-d'œuvre très très basse et quelquefois ça a été même annoncé officieusement, on veut que la Grèce arrive au niveau de la Bulgarie, au niveau coût salarial. Et d'autres conséquences, il y a moins d'écoles, des classes surchargées dans l'enseignement. À la santé, il y a beaucoup de gens maintenant qui n'ont plus la possibilité d'acheter leurs médicaments. Il y a moins de médecins, il y a moins de tout, et il y a beaucoup de jeunesse bien formée qui part à l'étranger. L'ironie du sort, la majorité part pour l'Allemagne.
Petite question, il y a combien d'habitants en Grèce?
Il y a 11 millions.
11 millions.
11 millions, on n'a jamais été très nombreux, mais on est valeureux.
Dans le peuplement, justement, de la Grèce, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que sur les 11 millions, il y en a, la plupart vivent à Athènes ou dans la région d'Athènes. C'est quoi la proportion? Vous pouvez nous rappeler la proportion?
C'est à peu près, sur 11 millions, c'est 5 millions à peu près qui vivent dans le département d'Athènes. Mais ça, c'est le résultat d'une politique des années 60 surtout, où tout le monde s'est amassé dans la capitale.
Donc le véritable centre industriel, commercial du pays, c'est véritablement Athènes et sa région du coup.
Exactement.
Et je sais pas, quelle superficie ça fait la Grèce par rapport à la France?
Ça fait à peu près le quart de la France, mais avec une longueur de côte. 6 fois, je crois,
supérieure. C'est vrai qu'en Côte, vous êtes particulièrement doté.
On s'écoute un petit disque. Alors, je sais pas si c'est spécial Grèce.
Si, c'est toujours. Mais alors, c'est quoi?
Alors, c'est un. Ah, c'est d'accord. Oui, c'est un. Je vous laisse découvrir.
Il nous fait
vous
ça en signe sourd-muet. Il nous fait du grec en sourd-muet. C'est vrai qu'il a pas de micro, monsieur Grovitch.
Σορβώ το μικρό στράκι, σορβώ κίτρινο κερί, κλαίει η νύχτα κι η βροχή, πέφτει αγιάζει στην ψυχή, νύχτα κι βροχή. Ζωροβά, κόμπο η καρδιά, ζωροβά, βέρα στα κλαδιά, χτύπα, αμόνια και σφύρια, κλαίω για παρηγοριά, αχ για παρηγοριά. Πατά στα χείλη, χάθηκαν και πάνε οι φίλοι. Δίχως λάδι το καντήλι, πίκρα περπατά στα χείλη. Ως έντας με καίει με λιώνει, πάει να αρχίσει δε σταριώνει. Στο σταυρό και μας σταυρώνει, ως έντας με καίει με λιώνει. Άνοιξη και καλοκαίρι, αύριο μαύρο περιστέρι. Τι θα πάρει, τι θα φέρει, άνοιξη και καλοκαίρι. Πήρε, μύρισε τη μάρη, γιώμησε το νιό φεγγάρι. Λαβωμένο πέρι. παλικάρι, πήρε μύρισε πιμάρι και βροχή.
Tout le monde aura reconnu le morceau qui était prévu à l'origine, parce que comment Monsieur Grovich est complètement planté. Du coup, on va devoir faire une petite césure dans la politique. Jean-Loup, on en a parlé tout à l'heure lorsque vous êtes parti fumer votre cigarette à l'extérieur.
Il n'y a
on
pas de droit, j'ai été suspendu.
Il y a eu bourrage.
Ils n'ont pas passé le bon morceau. Donc du coup, c'est le morceau qui a été prévu justement pour parler.
C'était le morceau qui était prévu pour enchaîner après sur l'activité danse de Mara pour rectifier justement une fausse croyance, parce que on dit tiens Zorba le grec, le sirtaki, la danse, le sirtaki, et une petite explication Mara sur le
oui,
sirtaki.
Du coup c'est une danse créée ad hoc, c'était créée spécialement pour les films Zorba le grec.
Avec Anthony Quinn.
Anthony Quinn, qui c'est le...
Hélas,
non, il était pas grec, je crois. Oui, mais c'est parce que vous avez été parce que c'est un bon acteur. Vous savez, il a aussi joué le rôle d'un Esquimau.
C'est vrai.
Qu'il avait effectivement le rôle principal dans les films, mais la danse s'appelle Sirtaki. Sirtaki, c'était la chorégraphie qu'ils ont créée pour les films. Mais sinon, c'est une danse qu'on appelle, nous, Rasa Piko, qu'il y a plusieurs versions des pas, et chacun peut adapter sa chorégraphie.
Voilà. Le Rebetiko, vous avez dit, j'ai bien entendu, c'est ça? Non.
Rasa Piko, justement, fait partie de la famille de Rebetiko.
Et donc le sirtaki n'est pas une danse,
c'est
en
pas
soi.
Une danse.
Voilà, là. L'erreur est rectifiée.
Mais et la danse a quand même
on la joue aux touristes, non?
La danse a quand même une longue histoire en Grèce. Comment il y a des dessins, par exemple, on parlait de la Crète tout à l'heure en venant, où on voit des jeunes danseuses sur les cornes des taureaux, etc. Est-ce que il y a eu une tradition qui s'est perpétuée malgré toutes les invasions, les bouleversements, etc. Est-ce qu'on pourrait dire, je sais pas moi, qu'il y a certaines danses traditionnelles en Grèce qui remontent à hyper loin?
Oui, là vous avez parlé de la Crète. Crète garde sa culture et sa tradition avec ses danses traditionnelles folkloriques. La plus connue est Pendozali, toujours très rythmé et très festif. On trouve dans toutes les fêtes crétoises. Et ils continuent leur tradition, mais aussi on a des danses traditionnelles dans d'autres régions grecques. Bah, ça dépend justement de la région. On a des danses du nord, danses du sud. Nous, justement, dans notre association, on propose les danses les plus connues, les folkloriques, comme Hasapiko et Hasaposelviko. Et mais en même temps, une variété justement de différentes régions des Grèces. Voilà.
Bon, on aura appris des choses.
Hein, eh oui. Et oui. Et donc du coup, comment la Grèce, parce que on a de la Grèce comme de la France, par exemple, il y a des danses traditionnelles en France. Il y a eu en Bretagne, par exemple, des danses traditionnelles qui étaient un petit peu tombées en périclitude, on va dire. Et puis pouf, par le charme de la harpe, entre autres, à Monsieur Alan Stivell, entre autres, qui a quand même pas mal
les années 70, ouais, les Trianes, etc.
Du coup, il y a eu un renouveau. Est-ce que ça, c'est, il y a eu ce même phénomène en Grèce, où il y a toujours eu cette continuité, ce côté transgénérationnel de la danse qui, hop, tout le monde danse, qu'on soit jeune ou vieux.
Oui, c'est là, il n'y a pas eu de coupure. Et d'ailleurs, parmi nos membres, hein, et donc les Philhellènes, les amis de la Grèce qu'on a dans l'association, nous disent souvent ce qui les frappe, c'est que les vieilles chansons sont connues de tous. Et on voit de jeunes, de moins jeunes et de plus âgés qui font la fête ensemble, il y a une continuité.
Ah, donc,
voilà, ça. Il y a des.
Il n'y a pas eu cette rupture qu'il y a eu entre le monde rural, le monde urbain, un peu en France.
L'art en Grèce en général présente une continuité et une créativité. Et quand vous pensez, on le disait tout à l'heure, que la population est relativement faible, pourtant il y a une créativité, que ce soit dans la danse, la musique, le cinéma. Plusieurs arts comme ça, plutôt populaires.
Est-ce qu'on s'écoute un petit disque, mon bon Jean-Loup?
On s'écoute un petit disque.
Alors, on s'écoute quoi?
Alors, qu'est-ce qu'on s'écoute?
Alors, numéro 2.
Ça, c'est une émission qui n'est pas vraiment bien préparée de votre
mais
côté.
Si, mais c'est votre technicien, là.
J'avais tout, tout bien préparé.
C'est pas Tom, c'est pas possible.
Et donc, c'est un morceau de Pavlos Fissas. C'est un rappeur antifasciste qui a été assassiné en 2013 par un membre de, comment, du groupe néo-nazi, l'Aube Dorée. Et moi, j'avais envie de lui rendre hommage et c'était un beau morceau. Voilà.
Et ça nous permettrait justement de rebondir sur la politique du.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές. Που παράμονευαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Κι όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' αφήνισαν με πυρήνες. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθούν. Να δούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και σιγά μην φοβηθούν. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φωλιά. Που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μοιρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' αφήνισαν με πυρήνα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθούν. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και σιγά μην φοβηθούν. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάτσου.
Ποιος είμαι φίλης αν δεν πήρει να δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κόμικο.
Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και
Voilà, alors que, alors on n'était pas tout à fait en Grèce, mais alors Tom, le champion de Mimi, c'est-à-dire quand même le 7,5 km à toute vitesse, il court, voilà. Il a été nous chercher des frites, bravo, alors c'est pas vraiment grec, quand vous avez un petit coup de faim comme ça avant d'embrayer sur la politique, vous mangez quoi, vous mangez quoi, c'est quoi ce qu'on aime bien manger, pouf, quand on a un petit coup de faim à l'apéro?
Ah, on mange les souvlaka.
Les souvlaka.
Ah, oui. Les brochettes qui ressemblent au kebab mais qui sont beaucoup plus raffinées et que tout le monde apprécie et ça coûte pas cher.
C'est vrai que Tom il fait fort. Hein. On invite des Grecs, il achète turc.
On s'étonne que les Turcs, que les Grecs achètent des frégates à tour de bras.
Justement, puisqu'on en parle enfin dans les préjugés, est-ce que c'est vrai qu'il y a une tension entre les Grecs et les Turcs
Oui.
Bon bah voilà, c'est vrai.
C'est séculaire, hein. C'est séculaire et ça existe toujours.
Depuis les Perses, pratiquement.
Depuis l'arrivée des Ottomans. Hein, c'est
même avant, si on monte aux Perses quand même avec les 300, il y a quand même une image, le monde grec qui barre la route de l'Orient quand même quelque part.
Oui, de barbare de l'Orient. L'histoire aurait été différente, c'est vrai. On ne sait pas comment.
Et sinon, pour revenir à la situation de la Grèce actuelle, si j'ai bien compris, l'Europe s'est nourrie sur la bête. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-européen qui domine en Grèce ou est-ce que les Grecs sont restés pro-européens ou est-ce que c'est un peu plus mitigé?
Ben, si on parle de l'Europe comme construction fraternelle, là, les Grecs sont pour, en grande majorité, en majorité écrasante.
Oui, ils n'ont pas envie de quitter l'Europe, forcément.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, même, mais ils veulent créer une nouvelle Europe. Donc, sur des bases plutôt sociales que purement financières. Donc, ils sont pro-européens. Mais différemment.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la politique. Alors, on a parlé justement comment Laetitia a rendu hommage à ce musicien là assassiné par Aube Dorée. Donc,
une parole très forte d'ailleurs. Là.
Et
vous avez senti,
on a senti que le discours il était énervé le monsieur. Et donc, du coup, Syriza qui a remporté les élections. C'est quoi Syriza? Ça correspondrait à quoi chez nous si tant est fut que ça puisse correspondre à quelque chose qui existerait en France?
Là, c'est difficile, hein. Vous savez, transposer une réalité à une autre, c'est toujours difficile. Je dirais que c'est une coalition, hein, de plusieurs partis, hein. Il y en avait, je crois, 19 petits partis qui ont formé Syriza. Et on trouve là-dedans de communistes ou ex-communistes, de radicaux de gauche, mais pas communistes, des socialistes, des écologistes. Et, tout ce mouvement s'est créé. Peut-être si jamais il y a à gauche du Parti Socialiste, je dirais aujourd'hui en France, une telle coalition avec le Parti de Gauche.
Le Front de Gauche, par exemple. Parce que le Parti de Gauche est un mouvement, alors que le Front de Gauche, ça serait plutôt le côté Union, du coup.
Ça pourrait être un peu l'équivalent.
En Espagne aussi, on dit qu'il y aurait des partis un parti qui ressemblerait un peu à ça dans l'esprit.
C'est Podemos, qui a été créé suite aux manifestations des indignés. Et apparemment, il collabore bien avec Syriza. Et donc, il compte beaucoup sur le succès de Syriza pour mettre en avant aussi leurs valeurs.
Donc Syriza n'est pas un parti politique, c'est une coalition.
Ah, c'est un parti politique, mais c'est une coalition. Et moi, dans ma tête,
coalition.
Est-ce qu'il y a des tensions?
Faut que ça tienne, quoi. Là.
Il y a des tensions. Il y a des tensions. Il y a toujours eu déjà quand le parti était à l'opposition. Maintenant qu'il est au gouvernement, effectivement. Il y a des différences, hein, qu'on voit par des voix exprimées, même de personnes historiques, comme il y a un député européen qui a plus de 90 ans. C'est la personne qui avait fait descendre le drapeau nazi sur l'Acropole en 1941 ou 42.
En pleine occupation nazie, ouais.
Exactement. Et qui n'est pas très content avec les dernières décisions du gouvernement. Il a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement cède sur certains principes annoncés. Mais
est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il a cédé sur certains principes tous les deux?
Est-ce que c'est du pragmatisme?
Depuis que vous avez vu Syriza arriver, comment vous le ressentez tous les deux, Mara, Dimitri?
Moi, je pense qu'il est bien, que les gens, ils voient à lui l'espoir, vu qu'il est jeune. Il part bien, mais il reste à réaliser ça qu'il propose au peuple grec. Je pense que les Grecs voulaient un changement. Après toutes ces années qu'il y avait les grandes parties, partie gauche et partie droite, ils veulent voir autre chose. Moi, je suis de mon côté assez optimiste et j'espère que il va réaliser tout ça qu'il a annoncé.
Mais ouais, ça double tranchant, parce que si jamais il se plante, il y a un autre parti, c'est l'aube dorée dont on en parlait tout à l'heure, qui risque de pointer son nez et dire bah, voilà, bah, vous avez vu, on a essayé la gauche ou l'extrême gauche, apparemment
gauche c'est pas radicale. Si extrême,
gauche radicale, et que peut-être les Grecs, si jamais ça ne fonctionne pas, pourraient se retourner vers un autre extrême.
C'est un danger, c'est un risque, mais pour l'instant, toujours, d'après le sondage d'opinion qu'on voit, une large majorité, donc bien au-delà de l'électorat, des gens qui ont voté pour Syriza, soutiennent le gouvernement et justement...
Il y a un état de grâce. Il y a un état de grâce, par contre, comment est-ce qu'il bénéficie d'un état de grâce, comme le camarade Tsipras?
Oui, c'est un état de grâce, parce que bah, les gens, de toute façon, ce que j'ai beaucoup entendu dire en Grèce pendant la période préélectorale, c'est que si Syriza réalise un tiers de ce qu'il promet, on sera content. Donc les gens réalisent quand même, ils ont conscience des difficultés, et on les a vus, à peine le gouvernement formé, vous avez des décisions de la Banque Centrale Européenne qui a fermé les mannes, et des pressions politiques diverses qui font que, justement, ce que le gouvernement aimerait mettre en place tout de suite n'est pas possible.
Et on faisait référence à l'aube dorée. C'est quoi? C'est le FN puissance 10 par rapport à chez nous? C'est plus mauvais.
Ils ont l'air quand même ténueux, assez, encore plus ténueux.
Ah oui, c'est beaucoup plus extrémiste. On les voit. Ben, Laetitia a parlé tout à l'heure de l'assassinat du jeune chanteur de rap, et on a découvert qu'ils ont quand même une structure quasiment militaire. Il y a des groupes qui descendaient, qui faisaient des descentes contre les étrangers, même en plein jour. Il y a des chaînes de télé où des membres de l'Aube Dorée allaient casser les étalages au marché des gens d'origine étrangère, un peu de couleur. Justement.
Ça rappelle un peu le nazisme, quelque part, en fait, ce côté paramilitaire. Exactement.
Et plusieurs membres importants, les dirigeants même du parti.
Un député élu a été arrêté.
Il y a plusieurs qui sont arrêtés. Il y a une quinzaine de députés qui sont sous les verrous, dont les chefs du parti. On attend les jugements, d'ailleurs.
Et en Grèce, ça correspond à quel pourcentage de...
Ils ont eu 6, quelque chose aux dernières élections.
Ça reste quand même minoritaire.
Heureusement.
C'est pas les 30% attendus du Front National.
C'est marrant, parce que comment pendant les élections européennes, lors du résultat des élections européennes, ils donnaient les résultats. Donc nous, vous avez le succès du Front National qu'on connaît, qui arrive quand même en tête. Et puis, ils disaient, oui, et en Grèce, quand même, la percée de l'aube dorée est plus inquiétante encore Syriza. Alors c'était parce qu'il y a eu quand même de la part de pas mal de médias Syriza, la mère Merkel a dit aux Grecs ça serait bien de pas voter Syriza, comme elle l'avait fait en France d'ailleurs. Il y a eu quand même tout le monde a flippé un peu de l'arrivée de Syriza.
Oui, je crois que ils se sont trompés, parce qu'ils ont joué comme il y a 2 ans sur la peur des gens, et ils ont voulu un peu trouver la symétrie entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ce qui n'est pas, c'est loin d'être le cas, puisque vous avez vu l'attitude du gouvernement qui cherche des solutions en Europe et pour l'Europe, les changements dont on parlait tout à l'heure. Donc ce ne sont pas des forces comparables, ça n'a rien à voir entre eux. Et puis du coup, comme la paire n'a pas marché, les résultats étaient autres, maintenant ils doivent composer et il y a un autre esprit, une autre approche.
On s'écoute un petit mix, alors je sais pas lequel, parce que c'est un peu compliqué.
Ça va être de la musique actuelle.
Rosa.
Voilà, populaire.
Ah. γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει ώρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζει στη ρουλέτα και με κάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εν το μου τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο τη ζωή μου. Κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί. Αγάπη μου από κάρο βουνό και φτιάχνει, πως έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την φόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.
Voilà, on est toujours en compagnie de Mara, Dimitri, Laetitia. On est toujours en compagnie de dignes représentants de l'association Calimera. On a parlé un petit peu. Alors là, je vous ai chippé le programme de Syriza. Vous avez une question,
ouais,
Jean-Louis.
Une petite question là qui me brûle les lèvres. Si je ne dis pas de bêtises, dans la constitution grecque, l'Église et les armateurs sont dispensés d'impôts. Est-ce que justement cette coalition compte réformer la constitution pour que justement
c'est marqué en tout cas dans le cadre de la fiscalité.
Ils le disent.
Oui, alors c'est difficile de mettre en place pour des raisons pratiques. Pour les armateurs, vous savez, les armateurs...
Il n'y en a plus en Grèce, vous
disiez. Il n'y a plus en Grèce. Hein.
Ils sont où ?
Ils sont à Londres. Et puis la majorité de leurs bateaux, des pavillons de complaisance. Ouais. Pour l'Église, c'est encore plus compliqué. Alors, il faut dire que l'Église remplit un rôle social en Grèce. Donc, il y a... Elle finance des hôpitaux, des maisons de retraite, etc.
Alors c'est ça un petit peu leur argument, c'est-à-dire que comme ils ont des œuvres sociales, ils n'ont pas à être taxés.
Oui, alors il y a aussi un autre argument qui est un peu, qui pose des difficultés au gouvernement, puisque la philosophie du gouvernement c'est taxer les revenus et non pas les biens. Et ce qui soulage beaucoup les populations qui ont vu justement des taxes sur les biens immobiliers notamment. Donc effectivement l'Église a beaucoup de terres, beaucoup de biens, etc., mais qui ne sont pas fructifiés, donc il n'y a pas de revenus.
Donc il y a des biens mais pas d'argent en fait.
Exactement. Et puis il ne faut pas tomber sur l'erreur.
Alors en même temps, il y a peut-être des choses qui sont un peu différentes, c'est-à-dire que comme là par exemple Syriza, c'est pas une gauche marxiste, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des braves gens qui votent Syriza mais qui vont à la messe, etc., qui sont tout à fait respectueux de la tradition.
Exactement. Il y a ça aussi. Il faut composer. Hein. Vous savez, même le Parti communiste grec, qui est un peu stalinien, hein, qui est resté, la plupart de ses membres sont des croyants, parce que la religion en Grèce a un poids très très fort historiquement.
Mais le clergé n'est quand même pas... Moi, je me rappelle, j'étais à Mytilène, et puis les gens chez qui on habitait nous avaient emmenés, parce qu'au centre de Mytilène, il y avait une espèce d'église qu'il fallait aller voir, etc. Et là, à la sortie de l'église, il y avait un super pop. Moi, je l'ai appelé super pop, parce qu'il avait une méga bagnole. Et mon fils adore les voitures. Il me dit, oh, papa, regarde, il a une plaque en or. Alors, je ne sais pas si la plaque était en or, mais effectivement, elle était dorée. Et on avait le super pop, là, qui était entouré de tous les fidèles, etc., qui rentrait dans une putain de bagnole, fauteuil cuir, etc., et une plaque qui brillait comme les mille feux de l'enfer. Est-ce qu'on n'a pas un clergé, quand même?
Oui, c'est un peu friqué. Le haut clergé, ça.
Et j'ai bien vu, c'était pas le pop ordinaire, hein, c'était tout venant.
Et puis, effectivement, c'est un peu scandaleux, un peu provocateur, et je pense que... les choses vont évoluer, mais doucement, parce qu'il ne faut pas faire peur, justement, au clergé et puis aux croyants. Et je pense que là, le gouvernement s'avère bien plus intelligent qu'on le pensait. Ah. Hein. Donc, il ne faut pas faire la révolution.
Pragmatique.
Voilà, une réforme graduelle, puisque de toute façon, on ne peut pas faire autrement.
Et en ce qui concerne le cadastre, justement, où ça avance un petit peu
Ça avance, et j'espère que ça va avancer mieux que dans le passé, puisque dans le passé, justement, encore l'État a confié la tâche à des privés, et qui ont fait des erreurs, et des erreurs, et des contre-erreurs. Donc ça coûte cher, ça coûtait cher à l'État, aux particuliers aussi, et ce n'est toujours pas terminé, en tout cas pas dans la totalité du territoire. Il y a des régions où c'est terminé.
Mais ça avance, en fait.
Ça avance.
Et au niveau du territoire, par contre, alors je dis toujours, dans le programme que j'ai shippé à Laetitia, au niveau de la politique internationale, on va essayer de s'entendre avec les Turcs.
La volonté est toujours là. Hein.
Alors par contre, ce qui est contradictoire, c'est qu'ils ont filé quand même le ministère de la Défense à ce représentant national du Parti Nationaliste avec qui il avait failli s'allier. Oui. C'est pas flippant un peu, ça, d'avoir filé ça
Je crois que c'est l'avis personnel. Hein. Moi, je ne représente aucun parti, je ne suis pas membre d'aucun parti. Je pense qu'ils ont été un peu obligés, s'ils avaient eu la majorité absolue au Parlement... évidemment, il n'aurait pas fait. Ceci dit, je pense que dans le système européen, je rappelle aussi que aussi bien la Grèce que la Turquie sont des membres de l'OTAN.
Ben oui.
Donc, ils vont essayer de trouver une entente et passer loin de mesures ou d'actes provocateurs ou qui vont créer la tension. C'est dans l'intérêt de personne.
Et puis en plus, si la Turquie veut rentrer dans l'Europe...
Justement, mais le paradoxe, c'est que la majorité des Grecs espère que la Turquie rentre dans l'Europe.
Pourquoi ?
Parce qu'il y aurait automatiquement moins de contentieux. puisque bah on appartiendrait
tous les Européens, quoi.
Voilà, à tous les Européens.
Putain, c'est vachement bien.
C'est paradoxal, mais si on y pense, hein, c'est simple.
D'accord. Moi, je m'écouterai bien encore un petit Dix, ouais, quoi, ou un verre d'ouzo. Ah
les deux. Il faut parler aussi de l'association, ne nous oubliez pas.
Oui, c'est pour ça que le disque, et après on parle de l'association. Voilà.
Il n'y a plus d'ouzo, mon pauvre Roger, oh, si on a fini la bouteille.
Ça, c'est nos invités de nouvelle donne, hein. Ils sont même pas élus, ils nous ont déjà chippé tout l'ouzo.
Allez, on s'écoute un petit Dix, et après j'aurai une question à poser.
Σαν απ' τον καιρό Μονάχο με τον ουρανό Je vais demander de l'aide à Yolo, c'est là Il y a un tout petit problème dans cette chanson mais qui va très bien passer, c'est que il chante beaucoup plus haut que moi. Alors je vais peut-être m'étrangler en fin de phrase, mais... Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, avec ma bouche qui a bu et embrassé mordu sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portent des jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire une histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Σύννεφο απ' τον καιρό μοναχό μες στον ουρανό πήρα παιδί τους τρόπους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και την βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα σεγγέρια σα φτερά που δεν εγνώρισαν χαρά πάλεψα με το κύμα. Βαθιά μου μια πηγή αγάπη που δεν βρήκε γη χαμπαίνει μες στο κρίμα.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien de tous les sangs, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
Θα'ναι μια ανοίξη πικρή, όλα θα ανοίγουν στη γη. Αρχίσω.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Mara, Laetitia et Dimitri.
Et on est
de
bien sur Canal B.
Calimera, on est toujours sur Canal B. Voilà, on en profite.
Alors Moustaki, quel est le rapport avec la Grèce?
Alors bah, Moustaki, d'abord parce que Moustaki.
Parce que ça se termine en ski.
En ski.
Et pour le ski, il est pas grec pour autant là. Alors.
Non, parce que bah, Georges Moustaki, Yorgos Moustaki, était d'origine grecque.
Hein, et voilà. Ouais.
Et donc il a écrit cette chanson qui s'appelle Le Métèque. Et là, on vient de l'écouter. Il chantait avec Yorgos Dalaras, qui est un chanteur très connu en Grèce, qui donc c'était, je trouvais intéressant de pouvoir mettre une chanson chantée à la fois en français et en grec que tout le monde connaît, le métèque en France.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et moi j'ai une petite question à poser. Justement, alors, on parlait de la difficulté penser qu'on est français pour apprendre le grec, mais qu'on est grec, est-ce que la langue française est difficile?
Oui, c'est difficile, mais il faut pratiquer la langue, justement. Moi, j'ai appris le français depuis que j'étais en Grèce, mais les vraies pratiques, c'est en France. Tu rencontres les gens qui sont des Français, pas des Français, et c'est là que tu apprends à parler mieux dans le quotidien, à la fac, mais plutôt dans le quotidien avec aussi les gens qu'on fait compagnie.
Ceux qui disent putain à la place d'une virgule, par exemple.
Oui, exactement.
Putain, c'est dingue. Ah, voilà.
Et c'est plus aller dans le pays, en fait, pour parler bien.
Donc pour un grec, le français est une langue aussi difficile qu'un français qui apprend grec.
Peut-être pas, parce qu'il y a une grande différence. C'est que le grec est une langue à déclinaison. Donc vous savez, le même mot change selon sa fonction dans la phrase de forme.
Évidemment.
Ce qui n'existe pas en français.
Il a déjà décroché. Hein.
Voilà. Mais il faudra venir au cours. Hein. On organise des cours de langue, entre autres, mais on parlera d'autres choses. Et donc il y a des Français qui viennent apprendre, comme Laetitia, vous l'avez entendu. Vous l'entendrez, vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre quand on fait des soirées grecques. Elle chante très bien. Et donc, il y a des Français qui apprennent le grec et qui réussissent, plus ou moins. Et quand ils ont l'occasion d'aller en Grèce, ils ont le plaisir d'échanger en grec.
Ils sont motivés, en fait. Ils ont de la passion pour la Grèce, comme moi, par exemple, pour la France. Du coup, tu es obligé, entre guillemets, d'apprendre la langue. Mais c'est la passion qui te dirige vers les gens et la langue. Comme ça, c'est pas difficile. Il faut faire des efforts, mais rien impossible.
Et justement, c'est la fonction de Calimera. Et Calimera, à partir du 28, 29, 30, 31, va...
Mars.
Mars, hein, bien sûr, va organiser plein de trucs.
Voilà. Eh ben, écoutez, en fait, moi, je vais commencer. Donc, par le premier événement qui se déroulera le 28 mars, si je ne m'abuse, donc le samedi, avec la cérémonie Le Bâton d'Euclide, son ouverture.
Alors, Euclide, donc, moi ça me rappelle des mauvais souvenirs.
Euclide, je vais vous rappeler un petit peu qui était Euclide. Il vivait donc, je vous donne un petit cours. Hein,
mais non, mais
il vivait dans la Grèce antique. C'était un géomètre qui avait pour habitude de donner des cours avec en main un bâton. Hein. Et ce seul instrument lui servait à beaucoup de choses. Ce bâton était pour Euclide à la fois un sceptre, une règle, une métaphore, un doigt, un crayon pour tracer des figures dans le sable et sans doute aussi un bâton à usage coercitif. Bref, un jour, Euclide en a assez d'enseigner et il veut se barrer dans le désert. Et avant de partir, eh bien, il se dit, tiens, je vais transmettre mon bâton à mon étudiant préféré, à mon chouchou. Et son chouchou,
le boudet
à son Euclide, c'était Aristarque de Samos, bien connu des astronomes pour ses études sur les mouvements des corps célestes. Et donc, voilà, le bâton d'Euclide était pour tous le symbole du savoir qu'on transmet. Et donc à l'association, notre président Théo a voulu faire perdurer un petit peu justement ce symbole du bâton d'Euclide, de la transmission du savoir. C'est quand même une belle chose. Et donc il a mis en place cette cérémonie en 2003 avec un archéologue qui s'appelait donc Jean-Yves Empereur. Donc cette transmission du savoir, comment se passe la cérémonie, c'est-à-dire que voilà, une personne se retrouve à l'honneur, on lui transmet ce bâton d'Euclide et à son tour l'année suivante, il devra
transmettre
à une personne de son choix et c'est la personne qui détient le bâton d'Euclide qui choisit son successeur et c'est l'occasion aussi pour cette personne devant son public de faire une conférence sur une thématique de son choix et donc on a vu passer comme ça donc Jean-Pierre Luminet un astrophysicien Jacques Lacarrière écrivain français connu pour ses écrits de voyage notamment en Grèce on a vu aussi en 2006 Stylianos Nikolaidis, un neurochirurgien, vous voyez, Costa Gavras, le cinéaste que tout le monde connaît, Yanis Kokos,
scénographe. Et donc, en 2013, nous avons eu le plaisir d'accueillir Angelika Ionatos, une grande compositrice, qui sera donc là le 28 mars et qui a décidé donc de transmettre le bâton de Clyde cette année à Michel Lebris, que l'on connaît bien ici en Bretagne, puisque donc c'est le fondateur
du Festival Voyageur.
Voilà, exactement, tout à fait. Donc il sera là. Donc la cérémonie commencera par un concert de Angelika Ionatos, suivi par un film réalisé par Alain Dabadi sur Michel Lebris, et puis après on aura une intervention de Michel Lebris, justement.
Il
n'y
a aucun suspense,
conférence.
En fait, vous savez déjà.
Oh, mais j'ai tout dit, flûte!
Voilà, on pensait nous contre... qu'on aurait été nominé, qui était vrai espoir.
Je pensais à un autre bâton en ce qui nous concernait.
Et donc, la cérémonie commencera à 15h à l'amphithéâtre de la Chambre des métiers. Alors, la petite surprise, c'est que, à l'issue de cette cérémonie, on boira un coup, on boira l'ouzo tous ensemble, bien évidemment.
Ça. Alors, l'ouzo, c'est
le
Ricard local, pour raison.
Voilà, il y a toujours une bonne raison.
Oh, c'est Alizé, tout ça.
C'est nettement meilleur que le Ricard. Rien à voir. Et, l'innovation, c'est que ça sera suivi d'une soirée de gala. Alors, là où on accueillera un grand cuisinier.
On va manger de la moussaka.
Oui, non, bien mieux que de la moussaka. Donc c'est un grand chef.
Je sais pas si je vais venir.
Un grand chef grec, Dimitri Bakatsianos, qui viendra faire un repas de la cuisine byzantine.
Ah, c'est quel jour ça?
Eh bien, c'est le même jour, c'est le soir après.
Mais
après
quel
cette
jour,
conférence, c'est le
jour.
Samedi 28. Yes. Alors justement, je lance un petit peu un appel puisque donc la cérémonie est ouverte à tous, donc vous pouvez venir assister à cette conférence, à ce petit concert d'Angelika Ionatos, et si vous le souhaitez, vous pouvez venir à cette soirée de gala avec ce menu de la cuisine de Dimitri Bakatsianos, la cuisine du Mont Athos, cuisine byzantine, où il vous proposera histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, un carpaccio de poulpe avec huile d'olive, des gambas aux herbes sauvages,
ouais.
Un sorbet au miel et aux noix, enfin. Je ne vous dis que
comment qu'on fait.
Alors vous allez sur le site, le blog de l'association grecque de Bretagne Calimera. On remettra toutes les coordonnées
sur le blog.
Je veux dire, c'est parce que parfois on reçoit des gens, ils disent ouais, faudra venir, mais c'est déjà complet.
Non, il reste des places pour la soirée de gala. Pour
qui gala,
se déroulera donc au 3C, c'est le centre culinaire contemporain à Rennes, donc le
c'est
samedi.
Où, ça
c'est rue Jules Maillard de la Gourmerie, si je me trompe
c'est
pas.
C'est vers la sortie de Vezin-le-Coquet.
Ah non. Bah tiens, c'est par chez vous ça, monsieur Grovitch.
Donc un grand cuisinier grec, il fera une petite intervention aussi avant le repas, je crois, où il expliquera un peu sa cuisine,
Ça va coûter un petit peu quand même.
Ah ben ça coûte 30 euros le repas, mais alors vin compris.
Vin compris,
oui,
ça.
Bah oui, vin compris.
Il y a du bon vin en Grèce là.
Du vin du Mont Athos. Voilà.
OK. Donc est-ce que ça sera l'occasion de danser le sirtaki?
Mais le sirtaki n'est pas une danse, on vous l'a expliqué. Roger, enfin.
Et si je mange
le Sassa Pico.
Qu'est-ce que ça veut dire, Calimera, Roger?
Bonjour.
Voilà.
Et Calispera.
Bonsoir.
Bien.
C'est les fameuses déclinaisons, c'est pas aussi compliqué que ça, en fait. Histoire d'accent.
Donc, il reste des places pour ce repas, grec,
yes.
N'hésitez pas.
Ça, j'ai bien noté, vous m'avez donné l'eau à la bouche. Et je vois quand même que Dimitri, il brodit son flyer. Il dit, purée, ils vont pas me laisser la parole, les enfoirés. Il est 21h50.
Ah oui,
alors, il y a le ciné TND.
Il y a le ciné, donc on enchaîne le 29 et le 30 mars. Ça se passe au ciné TNB. Alors, le 29 mars, la séance est à 18h. On va passer un film qui a le titre pas très grec, Runaway Day, donc le jour de la fuite. Et on va recevoir son réalisateur. C'est un jeune réalisateur, c'est son premier long métrage. C'est un film qui vaut la peine d'être regardé. Et ensuite, le lendemain...
Mais c'est un metteur en scène grec, du coup, excusez-moi.
Ah bah, grec. Et les films sont grecs, en version grecque, sous-titrés en français.
Et le lendemain, donc lundi 30 mars à 20h, on passe un deuxième film qui s'appelle en français Les Sentimentaux. Donc ce sont des avant-premières. Et cette soirée, on a dit tout à l'heure, Laetitia rigolait, vous aussi, tout est prétexte à prendre un ouzo. Donc ouais, à la fin,
ouais, je reviens, pareil.
Voilà, il y a des médias à offrir et ça ne coûtera pas plus cher. C'est le même ticket du cinéma qui suffira pour déguster. Non. Pour déguster, pour avoir la dégustation du deuxième film.
Ouais, vous serez jamais riche. Vous en sortirez jamais si c'est traduit.
Notre richesse, c'est la civilisation, la culture.
Alors, le cinéma, quand même, parce que l'heure tourne, mais j'aimerais bien poser une question sur le cinéma grec. Vous avez malheureusement plus beaucoup de temps. Et Jean-Loup va vous donner 2-3 minutes. Comme le cinéma grec, moi, je connais, tout le monde connaît Costa Gavras, il y a eu Z, effectivement, qui parlait après du pouvoir par les colonels. Est-ce que c'est qui aujourd'hui le cinéma grec? Ça serait...
C'est très diversifié. Là, il n'y a pas un nom qui ressort. On a reçu il y a quelques années le cinéaste le plus connu en France, Angelopoulos, Théo Angelopoulos, qui a eu la palme, je ne sais plus en quelle année, je ne me rappelle plus, mais peu importe. Et malheureusement, depuis, il est décédé. Et donc, il y a toute une nouvelle génération de jeunes cinéastes qu'on fait venir ces dernières années. C'est un cinéma avec peu de moyens, mais assez subversif et en même temps assez poétique. Donc là, le film sélectionné cette année ne traite pas directement de la société grecque, mais on sent que ça vient d'une société en crise. Mais c'est regardé avec beaucoup de poésie, parfois avec un aigle d'absurdité. Hein, c'est peut-être justement la fuite ou la libération de quelqu'un qui n'a plus beaucoup à perdre.
On s'écoute un petit disque, il nous restera quelques minutes pour conclure.
Au revoir.
On s'écoute, je sais pas quoi, un truc.
Alors, vous ne deviez pas chanter
les activités.
Parce qu'on pensait que nous allions terminer.
Est-ce qu'on peut citer les activités avant de terminer par la chanson?
Justement, avant de couper, alors allons-y alors.
Donc l'association grecque, c'est les cours de grec avec Dimitri. C'est les cours de danse avec Mara. Mara.
Oui, justement, notre association propose des activités. Il propose des cours de la langue grecque. Ce sont des cours qui se passent, se déroulent sur Rennes. Des cours hebdomadaires d'une heure et demie. Il y a tous les niveaux, des débutants jusqu'aux niveaux très avancés. Comme vous avez déjà dit, des cours de danse, c'est moi qui anime justement les cours. C'est chaque vendredi soir également 1h30 par semaine. On est une quinzaine de personnes qui sont présentes régulièrement. On fait des petites soirées pendant chaque 2-3 mois. Ils nous invitent dans d'autres maisons d'activité, maisons de culture. On présente nos travail et c'est l'occasion justement d'échanger. On est ouvert à toutes les propositions. Et il y a des gens qui sont vraiment intéressés et vraiment passionnés par la Grèce. Et on a des gens qui viennent de loin pour justement assister à nos activités, qui viennent de Saint-Malo, de Laval, de Saint-Brieuc. Et ensuite, il faut pas oublier l'atelier cuisine qui est Sveta qui anime ça. C'est des ateliers cuisine. Je salue Sveta. Yes, Sveta qui. Et c'est 5-6 ateliers par année. Il propose, justement, il prépare des plats, des spécialités grecques avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Et quoi d'autre? On fait aussi des conférences et des expositions. Mmh. On fait aussi les fameuses...
On fait aussi des soirées qu'on appelle les Kanoume Parea, qui sont des soirées très festives.
Je sais pas ce que vous voulez dire.
Hein, vous m'avez compris, Jean-Loup.
Ça n'a rien de cochon.
Je t'en aurais plus jamais.
Soirées très festives où nous chantons, nous dansons tous ensemble, où on essaye de retrouver un petit peu ces ambiances chaleureuses, festives en Grèce, l'été, comme ça, où on entend... Et on boit de l'ouzo, et on danse, et on chante, et c'est joyeux. Et puis on a plein d'autres projets.
projet. On a un projet justement de conférence avec Dimitri sur l'image de la prostituée auprès des poètes du XXe siècle, mélange de textes, de poésie et de la conférence de Dimitri. Voilà, on a plein d'activités. Surtout, n'hésitez pas à consulter le site de Canal B pour retrouver nos coordonnées ou taper directement sur Internet Association Grecque de Bretagne, Calimera, pour retrouver toutes nos activités. Les cours de grec, les cours de cuisine, les cours de danse, les soirées Canomé Paréa, et puis tous ces événements, le bâton d'Euclide, le festival du cinéma, et puis tout ce qui suivra derrière, parce qu'on a plein d'idées et plein d'envie et plein de passion pour la Grèce, et on aime les Grecs.
Il nous reste juste quelques minutes pour s'écouter un dernier morceau.
Vous n'avez pas chanté, justement, j'ai cru vous.
Eh bien, lancez-nous le morceau, puis on va chanter, et vous allez chanter avec nous.
Non, on ne va pas vous le saloper.
Non, le grec c'est pas compliqué, c'est l'histoire d'accent en fait. Faut pas trop rouler l'air.
Non, faites pas ça.
Ah oui. Est-ce que je peux me permettre de donner le mail de l'association avant de chanter?
On pourra retrouver tout ça sur le blog.
On va le retrouver sur le site.
D'accord.
Laetitia, oui,
okay. Comme ça.
Bon, mais bon, c'est cool le morceau. On se dit à la semaine prochaine, du coup. Enfin,
si on a le droit.
Ouais, si on peut-être, c'est possible.
Kalimichta.
Kalimichta.
Kalista, ouais, là. Ouais. Au revoir.
Στις ακρογιαγιές αδειλαλούν διπλοπενιές. Έλα και γάμας φίλε να τα πεις κι απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα κοντά μας φίλε να τα πεις κι απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα να νιώσεις πως είναι ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί.
Alors, je chantais grec.
Et bien, en tout cas, on vous remercie, Mara, Dimitri et Laetitia, d'avoir justement égayé notre soleil, de nous avoir donné le soleil dans notre cave qui est devenu Canal B, parce qu'on est quand même au moins trois.
Et comme quoi les Grecs sont un peuple joyeux qui est pas vraiment à plaindre, en fait.
Oui, ils ont l'air à plaindre.
En France, on est en train de déprimer.
Venez en vacances en Grèce cet été. Venez tous en vacances en Grèce.
Ouais, j'ai peut-être allé en Tunisie, pas que ça va. Les prix vont baisser.
Avec un gilet pare-balles. Je préfère la Crète en ce qui me concerne.
Allez, on laisse la place.
Vous remercie et puis à très bientôt, j'espère.
Merci à vous.
Merci les Grignoux.
On laisse la place à Dub Révolution, comme on dit ça en grec. Dub Révolution.
Révolution en Grèce.
Epanastas.
Et Dub Epanastas. Pas compliqué le grec en fait. Allez, merci et à la semaine prochaine.
Peut-être.